Valérie Damido, bonsoir.
Bonsoir, Thinkerview.
Nous recevons pour une chaîne, ça va être compliqué aujourd'hui. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ?
Je m'appelle Valérie Damido, j'ai 59 ans et j'ai fait beaucoup de déco. Enfin, les gens, je pense, m'ont connue avec une émission de déco. J'ai été journaliste et là, j'ai un spectacle et j'ai une chaîne YouTube où je bosse un peu dessus. Voilà. En gros, hein.
Bon, on va rentrer un peu plus dans le détail pendant cette interview. On a décidé de vous faire venir parce que un jour, vous avez évoqué notre chaîne dans des... C'était un petit compliment. Et c'est notre communauté qui nous l'a fait remonter. On s'est intéressé à vous, on s'est intéressé à votre façon de penser, ce que vous partagiez, les gens qui vous suivaient. Et on a trouvé ça bien.
Oh bah merci.
Et non, on n'est pas gentil. On a trouvé ça bien. Est-ce que vous essayez de transmettre cette envie de s'informer? Vous avez un vrai caractère trempé, un caractère en acier trempé. Et nous, on aime les gens comme ça.
Merci.
Et donc, on est très heureux de vous recevoir. On va parler de tout un tas de choses aujourd'hui, comme un peu de certes de rénovation, un peu de spectacle, un peu de géopolitique,
un peu de tout,
un peu de politique, pour parler vrai. Valérie, comment vous jugez le monde du showbiz télé?
C'est assez compliqué parce que c'est à la fois un milieu privilégié, parce que pour arriver à être quelqu'un de connu, que ce soit au cinéma, à la télé, ou, etc., dans les médias, c'est très dur, il faut bosser, c'est pas comme ça. Il y a des fois des trucs qui arrivent, des gens qui deviennent super connus parce qu'ils ont fait une émission de télé-réalité ou parce qu'ils se sont retrouvés, machin. Mais en règle générale, c'est du taf. Et après, c'est un milieu très particulier. Moi, j'ai très peu de vrais amis dans ce milieu. Mes amis,
pourquoi?
Parce que c'est des gens qui sont assez tournés vers eux, assez tournés vers leur carrière, vers leur image. Et moi, je suis pas quelqu'un. Enfin, moi, mon image, je m'en fous un petit peu, en fait. En vrai, j'ai jamais essayé de lisser qui j'étais ou de minimiser les trucs que je pensais ou en me disant ça va nuire à ma carrière. Je parle trop. Souvent, on me dit que je suis grande gueule dans ce métier, etc. Peut-être, mais c'est un milieu très particulier. Et en même temps, j'ai quand même des potes qui sont là, mais pas tant que ça.
Avant de parler de bâtiments et tout un tas de choses comme ça, de rénovation énergétique, voilà, toutes ces petites choses qui embêtent tous les primo-accédants, quel regard vous portez sur la politique, sur la géopolitique, sur la finance?
Sur le monde, tu veux dire, presque.
Ouais, vas-y, fonce.
En fait, je trouve qu'en ce moment, on est un peu dans un marasme très particulier. C'est-à-dire que politiquement, moi, j'arrive même plus à savoir qui est de droite, qui est de gauche, qui dit quoi, qui fait quoi. J'ai l'impression que les gens qui sont actuellement au gouvernement ont une image de la France ou aimeraient refaire la France un petit peu comme la France des années, on va dire 40, la blouse à l'école, le SNU, des espèces de trucs un peu passéistes. J'ai pas l'impression qu'on avance, j'ai l'impression qu'on a envie de reculer et en même temps on massacre tout ce qui a fait, je trouve, le bien de la France, à savoir tous les services publics. L'hôpital ne s'est jamais aussi mal porté, les profs n'ont jamais été aussi maltraités.
Les chercheurs.
Les chercheurs, on n'en parle même pas.
Les universités.
Les universités, tout va mal et t'as l'impression que il y a une espèce de c'est tellement le bordel que ça avance, un scandale efface celui d'après. Enfin, c'est un vrai bordel. Moi, je pense beaucoup à tous ces gens qui, le matin, sont obligés de se lever pour payer leur loyer, la bouffe, les mômes, l'école, et si possible, un peu de plaisir, le crédit, le machin, et qui se disent « mais putain, on va où là ?» Parce que je trouve qu'on a de moins en moins de vista sur ce qui va se passer. C'est-à-dire que là, ça fait quand même un moment qu'on nous dit qu'on est en guerre. Oui, on est en guerre, clairement. On sort d'une pandémie où on a tous été éreintés. Et je trouve que c'est très, très compliqué de se projeter dans l'avenir. Moi, j'ai une gamine qui a 31 ans et un fils qui a 30 ans. Ils n'ont pas envie d'avoir d'enfants. Et je comprends, en fait.
Ils ont verbalisé, pourquoi?
Ouais, ils l'ont verbalisé, parce que c'est très compliqué. Ils ont besoin
De thunes.
De thunes, clairement.
De maternelle.
Et puis surtout de profs, d'école. Et tu te dis, je comprends, moi, quand t'entends le président de la République dire la France, il faut réarmer la France démographiquement. Alors déjà, moi, le mot réarmement pour parler d'enfants, j'ai envie de chialer. J'entends qu'il faut plus d'enfants et qu'on n'en fait pas, mais à quel moment tu as envie de faire des enfants dans cette société-là en ce moment ? C'est le bordel, bosser c'est dur, trouver du taf c'est dur. Je ne peux plus entendre ce discours, oui, on va fliquer les chômeurs. Mais à quel moment tu te dis dans ta tête, ah non mais les chômeurs, ils ont voulu être chômeurs, hein. Ils sont super bien. Hein. Mais non en fait, personne n'est bien au RSA, personne n'est bien au chômage. À quel moment fliquer les chômeurs ? Il y a un truc qui ne va pas. C'est-à-dire que moi j'ai toujours pensé que payer des impôts, moi quand ça m'est arrivé de très bien gagner ma vie, pour moi c'est normal.
C'est quoi bien gagner sa vie ?
Bah, c'est gagner entre 18 000 et 25 000 euros par mois, ce
net,
qui est énorme.
Net.
Ah non, brut. Mais c'est quand même énorme. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Aujourd'hui, je ne gagne absolument pas ça. Mais ça m'est arrivé de bien gagner ma vie. Et pour moi, ça n'a jamais été un souci de payer des impôts. Parce que pour moi, les impôts, ça sert justement pour les services publics.
Pour les infirmières, les pompiers,
exactement,
les
infirmières, les hôpitaux, les écoles, enfin, tous les services publics. Et là, aujourd'hui, je trouve que il y a un espèce de truc où on ne taxe pas les vrais gens qui gagnent de l'oseille. La fraude fiscale, tu vois tous les jours. On t'explique que l'évasion fiscale coûte 100 fois plus que la fraude au chômage ou la fraude sociale. Et on tape toujours, toujours sur les mêmes. Je comprends que les gens soient déprimés, soient fatigués et ne voient pas leur avenir parce que c'est très compliqué. Pourquoi avoir supprimé l'ISF ? Pour quelle raison ? Pour faire plaisir à qui ? Ça a enlevé beaucoup d'argent. Pourquoi faire travailler les gens plus longtemps ? Pourquoi taxer les chômeurs ? Pourquoi fliquer les plus petits ? À un moment donné, tu te dis, mais c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Une vraie société doit être équitablement gérée, c'est-à-dire ceux qui gagnent beaucoup plus doivent payer leur part à la hauteur de ce qu'ils gagnent. Tu peux pas taxer un mec qui gagne le SMIC comme tu taxes un mec qui fait partie du CAC 40. Enfin, tu vois, c'est... Et je trouve que en ce moment, il y a une vraie volonté dans le discours politique de dire c'est feignasse de chômeurs, c'est feignasse de profs. Quand tu vois qu'il n'y a plus de profs devant les écoles et qu'on se demande pourquoi, ben, c'est dur en fait d'être prof. L'argent, ils ont parfois les classes, ils sont à 38 dans les classes. Et puis après, tu vois tous les scandales qui arrivent. Tu vois, en ce moment, c'est... Tous les gamins dans les lycées font des TikTok en montrant l'état déplorable de leur lycée. Et à côté de ça, tu apprends que Valérie Pécresse donne de l'argent à un lycée privé comme Stanislas, qui a 7 hectares de terrain, des piscines, des trucs. Tu te dis, wow, les gars, l'enseignement privé ne peut pas être mieux que l'enseignement public de la République. Pour moi, ce n'est pas possible. Y a des choses qui ne vont pas, mais rien n'avance. T'as l'impression qu'on jette des trucs, des journalistes font des papiers, expliquent ce qui se passe, les gens se révoltent, mais derrière, qu'est-ce qui se passe ? Rien. Concrètement,
pas,
rien.
Pas de proposition politique ?
Non, aucune proposition politique.
Ou pas de cap ?
Il n'y a rien qui se passe. On a changé de ministre de l'Éducation nationale. On a une ministre qui fait à la fois l'Éducation nationale et à la fois les Jeux Olympiques. Les gars, c'est deux chantiers énormes. Et tu fais, oh là là, des trucs, des groupes de niveau. Même les profs, écoutez les profs, en fait. Moi, je suis pour qu'on écoute les gens qui sont sur le terrain. Il n'y a rien de mieux, en fait. Tu ne peux pas faire parler de loi et faire voter des trucs si tu n'écoutes pas les gens qui sont dans le truc. Tous les profs le disent. Les groupes de niveau, c'est une bêtise absolue. Et ça ne fera pas évoluer les enfants et ça n'arrangera personne. Les profs, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils demandent ? Moins d'élèves dans les classes, donc plus d'ouverture de classe, un salaire décent, évidemment, et surtout qu'on les écoute. Et là, qu'est-ce qui se passe ? On supprime des postes, il n'y a pas d'augmentation de salaire, et on propose des trucs qui sont repêchés, tu sais pas d'où. L'uniforme. Mais c'est ça qui va faire que les profs vont avoir envie de... Le SNU ? Mais non, faut arrêter en fait, faut arrêter tout ça, faut arrêter de penser que l'uniforme va sauver l'éducation nationale. C'est la France noir et blanc. C'est passé tout ça. Moi, à l'époque, quand j'étais à l'école, j'avais des blouses. Voilà, on mettait des blouses pour pas se salir en fait. Hein. C'était même pas pour se ressembler tous. Aujourd'hui, les uniformes, à quoi faire ? Qui va subventionner ça ? Pourquoi ? Tout cet argent perdu qui pourrait servir justement à augmenter les profs, à ouvrir des classes plutôt qu'à en fermer. Et puis pareil pour l'hôpital. Moi, ça me rend dingue de voir qu'il y a des urgences de nuit qui sont fermées. Il n'y a pas longtemps, Bordeaux, les urgences de nuit fermées. Moi, j'ai des copines infirmières qui n'en peuvent plus. On les a applaudis pendant le Covid. C'est super, les casseroles, les machins. Mais concrètement, à quel moment on leur a donné de l'argent? On leur a permis de continuer à faire leur travail. C'est fou, c'est complètement fou.
Quand tu te poses toutes ces questions...
J'ai envie de me taper la tête dans le mur.
Oh, mais avant de te taper la tête dans le mur ou après?
Ou après.
Comment tu fais pour aller chercher les réponses? Comment tu fais pour t'informer? Comment tu fais pour aller trianguler ton information?
Moi, j'essaye, parce qu'on en parlait tout à l'heure.
Autour d'un petit café.
Autour d'un petit café. Le problème des réseaux sociaux, c'est à la fois une arme exceptionnelle pour s'informer et à la fois très compliqué puisque l'algorithme...
Pourquoi t'as dit une arme?
Parce que c'est une arme. Pour moi, les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, TikTok, Instagram, Facebook un peu moins parce qu'on est vraiment encore dans un autre truc, même YouTube, c'est pour moi une arme d'information. C'est-à-dire c'est un outil, je n'aurais pu dire outil, mais pour moi c'est une arme, c'est plus une arme parce que ça te sert. Aujourd'hui, tu le vois, il n'y a pas très longtemps, il y a un mec qui a eu une amende parce qu'il a échangé sa place avec un autre mec dans le train.
C'était peut-être une nana d'ailleurs.
C'est une nana, je ne sais plus. En tout cas, il y a eu un souci. Ça a fait tellement parler sur Twitter que la SNCF s'est dit « Oh là, ok, les gars, on va rembourser. » Donc parfois, quand il y a un mouvement général sur un réseau social et qu'il y a, j'appelle pas ça un buzz, parce que pour moi, un buzz, c'est autre chose, mais quand il y a d'un seul coup une unité, et c'est là où on voit qu'on est vraiment beaucoup plus fort quand on est solidaire, en tout cas, quand il y a un élan de solidarité comme ça, les lignes bougent. Donc pour moi, les réseaux sociaux, c'est à la fois super, mais ce qui est très compliqué pour s'informer, c'est que moi, qui suis plutôt de gauche et plutôt... je vais toujours avoir dans mon fil des gens qui pensent comme moi, qui disent à peu près les mêmes choses que moi, donc qui ont les mêmes façons de penser, la politique, même le cinéma, même la télé, etc. Or, si j'étais plutôt de droite, ça serait pareil. Donc du coup, tu es alimenté toute la journée par un fil qui te donne ce que tu dois manger, ce que tu aimes manger. Du coup, tu ne vas jamais goûter ailleurs. Donc, ce qui est important, je trouve, c'est d'aller chercher des sites ou des gens un peu comme Thinkerview, par exemple.
Comment t'as entendu parler de nous ?
Je pense que c'est quelqu'un qui a dû vous retweeter un jour. Et j'ai été voir...
Encore quelqu'un de gauche, ça.
Probablement quelqu'un de gauche. Et j'ai été voir et j'ai vu que quand même, c'était quand même assez sourcé, c'était assez bien fait. Il y a quand même des choses... voilà. J'aime beaucoup Les Jours, par exemple. Les Jours, c'est un journal sur leur site. Tu t'abonnes et ils font des dossiers, ils font des enquêtes. J'aime bien Mediapart parce que Mediapart, c'est sourcé. Après, tu peux aimer ou pas Edoui Plenel et le problème n'est pas là. Je me fiche éperdument. Moi, ce que je vois, c'est le résultat. C'est exactement comme complément d'enquête. Les mecs font des enquêtes. Ils sont totalement dénués de on va prendre parti ou pas. Nous, on fait une enquête. Voilà, bon. Mais... c'est très difficile.
Il y a Élise aussi.
Élise, évidemment. Mais c'est dur aujourd'hui. Si tu as vraiment envie de manger toute la journée les mêmes infos et qu'on te conforte dans ta façon de penser, en étant sur les réseaux sociaux et en n'allant pas chercher plus loin...
Comment tu fais, toi, pour aller chercher plus loin?
J'essaye de voir les gens plus intelligents que moi, les sites qu'ils vont voir, à quoi ils sont abonnés, comment ça se passe. Et j'essaye de trouver des sites où il y a des vraies sources, où il y a des vrais débunkages et où au moins il y a un petit panel qui t'explique de façon plus posée. Et puis aujourd'hui, l'emballement médiatique, il est dingue. C'est-à-dire il se passe un truc, tu n'as même pas le temps de finir l'actu, que déjà il y a 200 informations de 200 trucs différents qui disent chacun leur truc. Et c'est un bordel sans nom.
Est-ce que les gens autour de toi, ils se confient, tes fans ou les gens qui peuvent te suivre? Est-ce que quand tu te balades dans la rue, des fois, t'entames des discussions sur ce qui se passe dans le monde? Qu'est-ce qui te font remonter les gens autour de toi?
J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont arrêté dans la rue quand j'avais parlé du fait que moi, j'ai subi des violences avec mon ex-mari, etc. Et il y a beaucoup de femmes qui m'ont écrit, qui m'ont accosté dans la rue pour me demander comment je m'en étais sortie, qui elles devaient aller voir, comment elles pouvaient se faire aider, etc. Beaucoup. Et c'est vrai que moi, je réponds très souvent. Après, j'ai des gens dans la rue qui me demandent où acheter une lampe ou du placo. Hein. Ça, c'est vrai aussi. Mais c'est vrai que, non, très souvent, il y a des gens... Beaucoup de gens m'ont parlé de mon interview chez Click. J'ai fait une interview chez Click où j'ai parlé de mon agacement à propos de l'affaire Depardieu. Et j'ai donc reparlé aussi des violences conjugales que j'avais moi subies. Et c'est vrai que les gens ont beaucoup vu cette interview. Comme quoi, tu vois, les réseaux sociaux. Parce que Click à la télé, c'est très peu de spectateurs. Là où c'est énormément relayé, énormément vu, c'est sur les réseaux sociaux. Donc, On passe la bise à Mouloud, que j'aime beaucoup. Mais donc oui, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui m'ont dit, qui me parlent beaucoup de ce que moi je peux dire sur les femmes, les mecs, les violences conjugales. Très souvent, comme je défends pas mal les profs, les services publics, c'est vrai qu'il y a des profs qui m'arrêtent. Oh là là, merci, hein, parce que franchement, on en a marre. Hein, bah, je comprends, les gars. C'est compliqué. Donc, voilà.
Quel regard tu portes sur Macron et sur François Hollande, dans le sens que tu veux ?
Voilà, moi, j'ai voté François Hollande. Donc ça,
Personne n'est parfait. Hein.
Personne n'est parfait. Moi, je suis traditionnellement plutôt en train de vouloir voter vers la gauche, qui m'a l'air plutôt d'être toujours vers l'empathie, le social, la protection des services publics, la discussion, le dialogue.
Un peu de caviar ?
Oh, un peu de caviar, j'en sais rien, j'aime pas le caviar, mais bon. Moi, j'ai grandi à Argenteuil, j'ai grandi dans une famille populaire, j'ai toujours entendu mes parents dire...
Argenteuil, c'est Sannois, tout ça.
Sannois, Argenteuil, bah oui, Franconville, la patinoire.
Beson.
Beson, ouais, Houille, bon.
Carrière.
Au mieux, carrière, mais c'était les riches, carrière. Mais du coup, si tu veux, je veux bien voter à gauche, mais là, en vrai, Macron...
On embrasse Beson.
On embrasse Beson, Vesoul et Argenteuil.
Donc Macron.
Macron, si tu veux, j'ai l'impression qu'il est seul. Tu sais, il y a un personnage dans Astérix, un petit gamin qui, quand il s'énerve, il arrête de respirer. Je ne sais plus son nom. Peut-être les gens qui nous regardent retrouveront son nom. Il fait soupe à l'oignon et croutonne. Voilà. Il s'énerve et il arrête de respirer quand on n'écoute pas ce qu'il dit. J'ai l'impression que Emmanuel Macron, il est un petit peu comme ce personnage. C'est-à-dire que je le sens très seul. Je sens qu'il est seul à prendre des décisions. Il ne doit pas écouter beaucoup les gens autour de lui. Et je n'ai pas l'impression qu'il écoute beaucoup les Français.
Il est peut-être mal conseillé, non ?
Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, je pense qu'il est toujours en train de dire qu'il veut parler aux gens. Mais moi, je trouve qu'il a une façon terrible de parler aux gens. Du travail ! Traversez la rue ! Je vais vous en trouver ! Cette espèce de façon toujours condescendante de parler aux gens, comme si les gens qui n'avaient pas de travail étaient des sales feignants et qui s'encroutaient là-dedans. Peut-être, hein, y a des gens qui adorent être au chômage et qui kiffent ne gagner que dalle par mois. Je ne les connais pas, ces gens-là. Moi, je connais plein de gens au chômage qui sont en dépression, qui sont malheureux, qui sont pas bien. Donc, il a toujours une façon de parler, mais il a l'impression que c'est la bonne. Tu dis, bah non, en fait, j'aimerais que tu passes un peu de temps avec des vrais gens. Et que tu saches comment parler aux gens. Je trouve qu'il a une façon très, très, très compliquée de parler. Il a, lui, l'impression que c'est la bonne et qu'en tout cas, les gens le comprennent. Pas du tout. Je crois pas. Et j'aimerais d'ailleurs que les présidents, les hommes politiques, les ministres, soient des gens qui viennent pas de grandes écoles, mais qui viennent d'endroits où ils ont bossé. Travail, gagne ta vie, gagne ta croûte. Et tu vas voir, obéis à des ordres d'un patron, arrive à l'heure, pointe, et tu vas voir, la vie elle va te paraître totalement différente. Galère pour trouver un médecin, galère aux urgences de l'hôpital, parce que forcément, que ce soit un député, un ministre, etc., personne ne fait la queue aux urgences, hein. Tout le monde a un médecin, un pote, un truc, un machin, c'est donc j'aimerais qu'avant d'arriver au pouvoir, on ait des gens qui nous dirigent, qui soient passés par la vraie vie, en fait, qui est vraiment vécue avec un salaire minimum, un loyer à payer, un patron à écouter, un travail à rendre en temps et en heure. Et peut-être qu'à ce moment-là, on aurait des gens qui respecteraient plus les Français. En tout cas, je pense que ça serait comme ça. Là, je trouve qu'en plus, on va vers un petit problème. Trump va sûrement repasser. Pour moi, j'arrive même pas à capter comment ce gars est encore sur le devant de la scène, mais bon, c'est apparemment...
Pourquoi t'arrives pas à capter ?
Mais ce gars est complètement fou, en fait.
On s'en fout du gars.
Ah, bah parce que je me dis... Mais
comment il arrive à convaincre les foules ?
Mais je ne sais pas. C'est une énigme pour moi, tu vois. Je me dis, ces gens ont eu 4 ans, ou combien de temps il est resté ? 4 ans ou 5 ans ? Je sais plus, que moi, c'est 4 ans chez eux, hein. Il a quand même fait un peu de merde. Il a quand même fait régresser les droits, que ce soit les droits des femmes, la façon... Enfin, tu te dis donc, OK, ils ont supporté ça pendant 4 ans. Mais à quel moment, avec toutes les casseroles qu'il peut avoir derrière lui, Tu dis, mais donc, vous allez il repasse encore dans les primaires, il passe en tête. Mais quel est le but de ces gens qui votent pour lui?
La rage.
La rage, j'entends, mais il n'a rien fait pour sauver les gens qui avaient déjà la rage à l'époque. Ça a été encore plus la rage. Donc, je te jure, des fois, je me dis... Comme des fois, j'entends des gens qui disent « Bah, on n'a jamais eu l'extrême droite au pouvoir !» Bah oui, bah j'ai jamais mangé mon caca, je m'en porte pas plus mal. Enfin, tu vois, c'est... moi, les comparaisons comme ça, des fois, je me dis « Oh, les gars !»
Non, mais et on fait pas de comparaisons caca et ainsi de suite. Parce que j'engueule les mecs de droite qui posent devant moi qui font des comparaisons...
Alors, je dirais, eh ben, j'ai jamais mangé de pigeon cru, et pour autant, ma vie va très bien. Enfin, tu vois, c'est... c'est toujours compliqué, les trucs comme ça. Donc, moi, je me dis... Emmanuel Macron, je pense qu'il est seul, en fait. Et j'ai l'impression que je le vois dans sa tour d'ivoire. Penser qu'il est le meilleur, penser qu'il a la parole absolue.
T'as voté Macron ?
Bah, j'ai voté Macron parce que moi, je ne peux pas m'abstenir de voter quand il y a le Front National
mais
en face.
Mais un vote blanc ?
Mais c'est, si c'était reconnu le vote blanc, je voterais blanc. Mais ce n'est pas reconnu. J'adorerais pouvoir voter blanc. Me dire, ah, eh ben non, ni l'un ni l'autre. Peste, choléra, vote blanc.
Hitler.
Ah, fou, là. Ah, je sais pas. Allez, je vais faire une raclette. Ça n'existe pas, le vote blanc. Donc, et moi, je ne sais pas. Je trouve que voter, c'est un... Moi, j'encourage vachement les jeunes à voter. Pour moi, voter, c'est un tel droit. Alors, surtout pour nous, les femmes, hein, on a le droit de voter beaucoup plus tard que vous. Je me dis, voter, c'est vraiment...
Et tu sais pourquoi?
Bon, parce que faut pas voter. Les femmes sont bêtes. Donc, les hommes ont voulu qu'on...
C'est comme ça, après on peut vous imposer.
C'est vrai, c'est pas faux.
Parce qu'avant vous n'étiez pas imposé.
C'est vrai, tu as raison. Et on n'a même pas de chéquier. Même pas de compte en banque, monsieur.
Mais fallait demander à ton mari.
Et encore.
Oula, qu'est-ce que c'est que cette indépendance que tu réclames là?
Un compte en banque à ton nom,
mais qu'est-ce que t'en ferais?
Mais Geneviève, enfin pourquoi faire? Non, c'est compliqué parce que je me dis, les jeunes, faut vraiment s'inscrire, faut vraiment voter, c'est un vrai truc. Parce que c'est eux, l'avenir. C'est pas les mecs de plus de 70 ans. J'ai lu récemment, dans un très 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 bon article, que l'électorat de Macron, ils avaient plus de 60 ans.
Où ça ?
J'ai lu ça sur le Huffington Post.
Avec une parfaite prononciation.
Huffington Post. Tu veux que je te le fasse à l'américaine ou pas ? Et je me dis, donc l'électorat de Macron a plus de 60 ans, la jeunesse, allez-y. Alors, j'imagine qu'il y a une partie de la jeunesse qui va voter... certainement à droite, enfin, tu vois, chacun ses convictions. Mais les jeunes devraient voter...
Ou Mélenchon.
Ou, je sais pas, Mélenchon.
Pourquoi tu sais pas Mélenchon?
Bah parce que Mélenchon, même si les... Je crois qu'il y a une partie des gens qui aimeraient voter à gauche à qui Mélenchon fait un peu peur. Je pense que La République, c'est moi, ça a fait beaucoup de mal aux propos. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu compliqué. Moi, j'aime bien les gens qui ont des convictions, qui défendent les droits et les services publics. Mais La République, c'est moi. Moi, ça m'a tendu un peu, cette phrase.
Gabriel Attal,
il a pour atout principal, je pense, sa jeunesse. Les gens doivent se dire, mon Dieu, il est jeune, c'est super. Gabriel Attal, il a été ministre de l'Éducation nationale... Que s'est-il passé? Bah, rien, en fait. Hein. Après, il a mis Amélie Castagnette et maintenant, on a Nicole Belloubet, que de Amélie, modernité.
Comment tu dis?
C'est Thomas VDB qui m'a fait rire. Il l'a appelé
c'est
avec
qui, Thomas
plein
VDB
nom, un comique.
Pardon.
Qui m'a fait beaucoup rire. Il l'a appelé Amélie Castagnette. Enfin, il l'a appelé de plein de noms. Ça m'a fait beaucoup rire. Je pense que Gabriel Attal, écoute, il est jeune. Voilà, ben c'est. Est-ce que ça suffit?
Stéphane Séjourné, c'est qui?
Ben c'est notre ministre des Affaires étrangères. Donc il est jeune aussi, c'est super. Moi j'aime bien l'idée d'avoir des gens jeunes. Mais après,
il a beaucoup de courage quand même.
Il a beaucoup de courage, mais après.
Il a pas d'expérience dans le domaine de la diplomatie.
Non.
Il a été parachuté là parce que il avait peut-être besoin d'un homme de confiance à la tête de ce ministère-là.
Surtout, il y avait peut-être encore pas trop de candidats qui avaient envie de faire partie du gouvernement. Je pense que là, ils ont été un petit peu... c'est compliqué. Je ne sais pas qui veut rentrer dans ce gouvernement. Tu rentres au gouvernement et tu prends déjà un uppercut de Mike Tyson en pleine face. Tu es ministre? Donc bon, plus personne n'a envie d'y aller. Je pense que la jeunesse, c'est pas le tout. C'est super d'être jeune, mais quand j'écoute des fois Gabriel Attal parler, qui nous parle d'uniforme, de trucs, je fais waouh, même mon père qui est mort, il parlait pas comme ça. Et je me dis, c'est compliqué. Est-ce qu'il écoute bien la jeunesse? C'est toute la jeunesse, je sais pas.
Est-ce qu'il a déjà été jeune?
Je sais pas.
Comment tu vois l'avenir pour tes enfants?
Moi, ça me fait souci parce que je vois mon fils bosse dans la restauration, ma fille, elle est illustratrice. Ils bossent vachement les deux pour s'en sortir. Ils ont des loyers, ils sont dans des 20 mètres carrés à 900 balles par mois à Paris. Ma fille et mon fils, tous les deux, ils ne veulent pas rester à Paris. Pour l'instant, c'est là où ils gagnent leur vie, mais... Je pense qu'à terme, ils ont envie de se barrer de Paris, qui est une ville très chère et très compliquée. Moi, je vois l'avenir très compliqué. Ils n'ont pas envie d'avoir d'enfants parce que, qui a envie de faire des enfants dans ce contexte-là? C'est extrêmement anxiogène. Et je sais pas, je suis inquiète. Alors, tant que je vivrai, je serai là pour eux. Mais je suis admirative des jeunes qui continuent à lutter, à faire des études, à essayer de s'en sortir. Moi, je trouve qu'on a une jeunesse...
Tu vois ton fils partir à la guerre?
Non. Moi, je suis pas du tout pour la guerre. C'est un truc compliqué pour moi, la guerre. La guerre, pour moi, c'est vraiment un truc... on fait la guerre quand on ne sait plus quoi faire économiquement. Ça relance l'économie. Toutes les guerres, toutes les histoires de guerre, ça a toujours été comme ça. Oh, non, c'est un peu la merde, on va faire la guerre. Les trucs de...
On va provoquer la guerre.
Où on va provoquer la guerre. En tout cas, la guerre, c'est toujours une façon détournée de... Moi, je ne suis pas du tout pour la guerre. J'entends, par contre, que la situation en Ukraine, elle est très compliquée, que tu peux pas du tout... Mais par contre, tu peux pas dire à Poutine « Hey, dis donc, c'est pas bien !» Parce que le gars, il fait comme
Arrêtez
ça.
Arrêtez de vous battre.
Arrêtez de vous battre, parce que le mec, il fait comme ça. Hein? Tu, quoi? Mais je t'emmerde, j'ai plein d'ogives nucléaires qui vont partir sur ta tronche. Le mec est tellement puissant, tellement d'armes. Donc, je crois beaucoup à la négociation, au dialogue, à la discussion. Maintenant, tu ne peux pas le laisser jouer et dire « Tiens, je vais annexer ce pays. Mais la semaine prochaine, j'en ferai un autre. » Tu dis « Wow, oui !» C'est très tendu, c'est très compliqué. Maintenant, effectivement, si ce soir, à 20h, le président nous annonce que c'est la guerre et qu'il faut partir là-bas, pour moi, c'est très compliqué. C'est moi qui suis pas du tout pour la guerre.
Qu'est-ce que tu feras s'il annonce la guerre ce soir?
Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est malheureux, mais je ne dirige pas le pays. Je ne peux pas contrer Monsieur Macron. J'espère que... Moi, je crois toujours à la diplomatie et au dialogue. Je n'arrive pas à croire qu'on ne peut pas trouver une solution. Dans tous les conflits, il faut toujours essayer de trouver... la négociation, le dialogue. Alors, je sais qu'il y a des gens avec qui on ne peut rien faire et c'est très compliqué, mais moi, c'est la guerre, ça me... Moi, j'ai eu des parents et des grands-parents qui ont connu la guerre et qui m'en ont pas dit que du bien, en fait. Et après, si tu lis un peu l'histoire, tu vois que la guerre, c'est pas le truc le mieux. C'est très bien pour l'économie, hein, mais c'est pas très bien pour la population, en fait. Hein.
Très bien pour l'économie quand tu gagnes.
Quand tu gagnes, bien sûr. Quand tu perds... Tu es pas bien. Mais non, moi je trouve que c'est... on vit un moment très douloureux, très compliqué, très anxiogène. Là, je fais des dates en province de mon spectacle.
Où ça hein?
En ce moment, c'est un peu la pause. Là, fin mai, j'ai une date, mais là, en ce moment,
Tu vas faire la causette avec nous.
Je vais faire la causette avec Thank you.
À chaque fois... Je vais dire avec l'accent français.
Thank you.
Exactement.
Thank you. Je me dis toujours à chaque fois à la fin des spectacles, comme je fais du stand-up et que je suis beaucoup dans l'actu.
Ça parle de quoi?
Ça raconte ma vie et en même temps, on fait plein de petites vannes sur l'actu. Je peux pas m'en empêcher. Et les gens.
Pas en une.
Je dis, mon père était flic. Et je
il
dis,
était flic gendarme ou flic?
Non, flic était commissaire de police.
Où ça?
À Colombes.
À Colombes, dans le 94?
92.
Orly?
Non, Colombe-Colombe.
Colombe-Colombe.
Et dans le spectacle, je dis, bah moi, quand j'étais petite, je voyais mon père, je voulais être flic comme lui. Belmondo, tac-tac, badaboum, mon petit cuir, allez, hop, monter sur les toits, l'hélicoptère. Mais en fait, c'est pas ça, quoi. Aujourd'hui, la carrière d'un flic, c'est plutôt genre 32 km/h, trottinette, et puis finir ma carrière sous les ordres de Darmanin. Enfin, quand je dis sous les ordres, si j'écoute BFM, c'est plutôt sous le bureau. Enfin, tu vois, je fais des vannes comme ça, etc. Bon. Et à la fin, t'as toujours les gens qui viennent me voir et me disent oh, ouais, c'est dur, tu vois, beaucoup. J'ai beaucoup de profs qui viennent me voir en spectacle, qui me disent ah, c'est compliqué, comment on va faire? Les gens sont largués, ils sont pas bien. Et je comprends. Parce que...
Ils viennent te voir à la sortie du
ouais,
spectacle.
Bien sûr, parce que moi, j'aime bien. Faire des photos, signer des trucs.
Taper la bise.
Non, c'est... Là, pour continuer à avoir de l'énergie, de l'envie, le smile, c'est... Waouh, c'est chaud.
Comment tu trouves la couverture médiatique des conflits?
Toujours pareil. C'est... Tu te dis, mais à quel moment... Donc, OK, vous nous montrez tous les conflits, que ce soit en Palestine, que ce soit en Ukraine. Mais personne ne va vraiment sur place, en fait. Il n'y a pas de... Enfin, on a des...
Ça devient très compliqué de couvrir un conflit dans
de
bonnes conditions.
Ah là, ça devient compliqué. Avant, il y avait des reporters de guerre, bon, c'était le métier.
Maintenant, il y a des tours opérateurs.
Maintenant, il y a d'autres choses. Mais c'est très, très dur. On est vraiment dans la guerre de l'info, dans la guerre de l'image, dans la guerre des réseaux.
Dans la propagande.
Dans la propagande. Puisque
de tous les côtés.
De tous les côtés. De toute façon, tu ne sais pas. À moins d'avoir un mec sur place, qui est local, qui vit là-bas, qui est journaliste et qui te donne les bonnes infos, on est vraiment la guerre de l'info. Et les... Avant, c'était un métier. Hein, et c'était un sale métier. Reporter de guerre, les gars, ils y allaient. Quoi.
Inconnu.
Des reporters de guerre, ouais, qui ont fini par paradis parce qu'ils n'avaient plus de boulot. Y a un très bon film qui s'appelle Harrison Flowers, d'ailleurs, sur les reporters de guerre. T'as aussi un super film qui s'appelle Salvador, hein, sur les reporters de guerre, avec James Wood, qui est là, qui est à New York, qui veut absolument couvrir les conflits. Crac, crac. Enfin, c'est un métier de...
T'as l'impression qu'il y a un double standard dans la gestion et l'information des conflits. Quand on voit ce qui se passe en Ukraine, quand on voit ce qui se passe en Palestine ou en Israël, comment tu analyses ce que tu peux recevoir? Est-ce que tu vas chercher derrière? Est-ce que tu vas trianguler ton information? Est-ce que tu as des copains ensuite qui sont sur place? Est-ce que tu fais
ça? Moi, j'ai pas de copains sur place et je regrette. Moi, déjà, le conflit israélo-palestinien est un tel... C'est tellement dur et tellement compliqué et tellement larvé depuis des années et des années. On a la Palestine dirigée par des terroristes qui maltraitent la population, qui maltraitent le monde entier. En face, t'as Netanyahou qui n'est pas le roi de la négociation, qui est plutôt vers la droite du conflit, qui est plutôt très sévère. Donc t'as des fous en Palestine et t'as quelqu'un de très dur en face. Donc le conflit, c'est très dur à régler. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un d'extérieur, truc qui s'appellerait l'ONU par exemple, qui arrêterait et qui dirait « Oh, alors déjà, les terroristes là, dehors ». On va dialoguer, on va essayer de trouver la paix pour tout le monde. On ne peut pas laisser des enfants mourir de faim. On ne peut pas laisser des civils se faire massacrer. Et on ne peut pas laisser, de l'autre côté, des civils se faire enlever, violer, assassiner. C'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, c'est une folie. Donc, tu te dis... moi, j'ai beaucoup de peine pour les civils qui se retrouvent au milieu de tout ça, qui n'ont rien fait et qui se retrouvent de deux côtés en train de pleurer. En Israël, les otages, plus personne n'a de nouvelles. Moi, je me mets à la place des familles. Je me dis, mais moi, je sais même pas comment ils tiennent. Et de l'autre côté, les civils qui se font bombarder et qui voient leurs enfants mourir, c'est fou. Tout est tellement horrible.
France au milieu de tout ça. Tu trouves que la France joue son rôle?
Tu sais, alors si t'écoutes tout le monde, la France continue d'envoyer des armes. Tu ne sais pas qui, tu ne sais pas. Moi, je ne suis pas du tout ni géopoliticienne. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des gens qui souffrent des deux côtés et que les civils, les familles, les enfants des deux côtés n'ont pas à supporter une situation pareille parce que des fous dirigent un pays, c'est des terroristes, foutent la merde dans un pays et empêchent les gens de vivre normalement. Pour moi, le terrorisme n'est pas une entité qui est capable de gouverner un pays.
Inversement, pareil. Hein, c'est-à-dire que,
et de l'autre côté, tu es obligé d'avoir... Il faut dialoguer, il faut essayer de retrouver. Alors, moi, je n'ai pas la solution, je ne suis personne. Moi, mon ressenti, c'est la souffrance des familles. Moi, je me mets à la place des familles de deux côtés. Je trouve ça terrible. Et en Ukraine, c'est pareil. Tu vois des gens qui sont dans leur pays, qui sont obligés de se sauver parce que le mec a décidé qu'il allait agrandir son pays à lui. Tu fais... Et rien n'avance. Ça fait quand même... Ça dure.
Ça fait 2 ans.
On rentre dans la 3e année, là. Donc tu te dis... ces gens ne vont jamais retrouver une vie normale.
T'as peur du conflit nucléaire?
Je pense que Poutine est suffisamment... vous me cherchez? Tu vois, il y a un moment donné... oui, ça peut être une... Enfin, tu vois, je ne pense pas que la guerre, ça sera avec l'infanterie, comme en 14-18 ou en 39-40, avec des chars. Et oui, il y aura sûrement un peu d'infanterie, il y en a déjà, mais je veux dire, si le mec, il a vraiment envie d'arrêter le... c'est très compliqué. Ouais, c'est un truc qui fait peur, quand même. Tu sens bien que le mec ne lâche rien et qu'il n'a pas envie de lâcher.
T'as refait la déco du bunker de l'Élysée ou pas?
Oh mon Dieu, quel enfer. Non. Non. Non, non. Mais est-ce qu'il faut vraiment faire la déco d'un bunker? Je préférerais faire la déco des nouveaux immeubles qui seraient construits à la place des passoires énergétiques dans les cités, par exemple. Ça m'arrangerait bien, oui.
Il n'y a pas que dans les cités qu'il y a des passoires énergétiques.
Ah, mais beaucoup dans les cités, je te le dis. Hein. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tous ces immeubles et toutes ces cités qui ont été construites dans les années 60, là, 70, aujourd'hui...
Ah ouais, et on n'a plus le même prix du fuel ou du gaz. C'est compliqué. On va parler un peu immobilier, rénovation, tout ça, un peu après. On continue un peu sur ta perception, par exemple, de Bruno Le Maire. quelle est la personne du gouvernement que tu kiffes le plus?
Là, de ce gouvernement-là? Sérieusement?
Trouve-moi-en un.
Ça
le ministre de l'écologie. Comment il s'appelle?
Monsieur Bras Croisé.
Même pas un.
Sincèrement, je cherche là.
Okay. Un politique que t'aimes bien?
Moi j'aime bien.
Georges Marchais,
pauvre. Écoute, moi j'aimais bien Benoît Hamon. Je rigole. Là, dans le paysage politique, quand il parle, je trouve qu'il dit toujours des choses intéressantes. J'aime bien l'écouter parler, c'est Ruffin. Après, il a sûrement des défauts que je ne connais pas, mais en tout cas, quand il parle, je comprends ce qu'il me dit. Je trouve que c'est toujours logique, je trouve que c'est toujours bienveillant et c'est toujours très humaniste. Donc j'aime bien écouter Ruffin. Après, Bruno Le Maire, pour moi, c'est tellement le renflement brun que...
Quoi?
Tu sais, il a écrit un livre porno dans lequel il dit...
Non, j'ai pas lu ça.
Je t'en supplie, il faut que...
Tu l'as lu?
Non, alors, j'ai lu les extraits, ça me...
T'es pas émoustillé?
Non.
Même pas. Pourtant, il a un physique d'Apollon, il est beau, c'est un beau mec, il a des yeux bleus, il sait reconnaître un lamantin.
Bruno Le Maire est beau mec.
Il est beau mec, Bruno Le Maire.
Alors, moi, tu sais, c'est plutôt... mon genre de mec, c'est plutôt Aquaman, tu sais, Jason Momoa, tout ça. Les mecs un peu avec les cheveux longs, bruns, tu vois, un peu bon. Bruno Le Maire, oui.
En termes de finances, il fait du bon boulot?
Non, il taxe pas les riches, donc c'est pas possible en fait de vouloir sans arrêt taxer les petits.
Et pourquoi il taxe pas les riches, à ton avis?
Tu sais, il y a une arlésienne qui revient tout le temps, c'est la taxe, la loi Tobin, là, tu sais, où tu taxerais les transactions financières, etc. Cette espèce d'arlésienne de taxes qu'on ne voit jamais et qui pourtant rapporterait des millions. Je sais pas pourquoi on taxe pas les riches, pour pas les fâcher, parce que c'est des gros investisseurs, parce qu'on joue au golf ensemble, j'en sais rien. En tout cas, on les taxe pas, ça c'est une certitude. J'adore savoir qu'il y a des gens qui gagnent très bien leur vie et moi je trouve ça génial. Une fois de plus, je n'ai rien contre les riches, je me fous éperdument, j'adore ça, la réussite, l'argent, je trouve ça génial. Mais quand tu gagnes énormément, il faut payer à la hauteur. Là, récemment, je lisais que Airbnb ne payait pas ses impôts, ils ont 300 millions d'impôts qui sont...
C'est quoi la source?
C'est quoi la source ? Bah, bonne question. Ça doit être ou Le Monde ou peut-être Libé ou tu vois. En tout cas, c'est un journal. Tu te dis bah pourquoi ? Faut les. C'est bien. Quand je vois qu'on dépense, donc ça nous a coûté entre 2 et 3 milliards le SNU.
Non, t'es sûr ?
Ouais. Eh oui. Pour faire quoi ?
Esprit de corps, de cohésion, de
faire corps, oui.
Faire nation.
Faire nation, ouais.
Chanter l'hymne national à la levée des couleurs.
Ouais, moi je trouve qu'on est très beau.
Faire son lit au carré.
Ouais, je trouve qu'on est très beau quand on est ensemble. Mais je crois qu'il y a d'autres trucs pour se réunir que l'uniforme et le SNU.
On parle un peu maison, immobilier, déco.
Allez, soyons fous.
Quand t'es primo-accédant, quand t'es jeune et que tu veux acheter un taudis énergétique et qu'il y a une inflation sur les matières premières qui te permettent d'isoler, de reconstruire, comment ça va le marché de l'immobilier en ce moment ?
Écoute, je ne suis pas dans l'immobilier, mais moi qui essaye de vendre désespérément ma maison pour me casser dans les bois, c'est compliqué. C'est très compliqué.
T'es obligé de baisser ton prix, là ?
Ah oui. Mais de toute façon, il faut. Enfin, tu vois, c'est... je pense que c'est aujourd'hui, si tu veux acheter une maison ou un appartement à un prix raisonnable, déjà, il faut que soit tu as déjà l'argent de côté parce que ta famille t'a prêté, soit tu as bien économisé. Parce que si tu veux faire un crédit à la banque, avec les taux de crédit en ce moment, reste chez toi plutôt.
Quand ton dossier est accepté.
Quand ton dossier est accepté, bien évidemment. Je pense que là, la crise de l'immobilier, elle ne fait que démarrer. Et malheureusement, je pense que les passoires énergétiques, elles sont encore là pour des années. Personne, jamais, ne va... Déjà, il faudrait reloger tous les gens qui vivent dans ces passoires énergétiques. Les reloger où ? On ne construit plus rien d'abordable, en tout cas. Les constructions qui sont faites aujourd'hui, c'est très cher. Donc, plus ça va, plus les gens qui n'ont pas les moyens, on les éloigne de la capitale. Ils vont de plus en plus loin. Et même en allant de plus en plus loin, ça reste quand même cher. Moi, je suis pour aller vivre dans les bois, hein, les gars. Et la capitale, faut la quitter.
Tu vois, tu vas faire plaisir à Anne Hidalgo. Et Anne Hidalgo, tu aimes bien Anne Hidalgo ? Elle est gentille.
Écoute, moi je fais du vélo.
Elle fait donc, du sourire tout le temps. Non.
Moi je fais du vélo. Je sais bien, les pistes de vélo. Moi je pense que là on est... Enfin, c'est aujourd'hui, moi quand je vois le prix que des loyers, mais tu te dis, mais... ma fille, 947 € pour 20...
Charges comprises ou pas ?
Charges comprises, non, tu sais, à la fin de l'année, on te fait un petit réassort. Pour 22 mètres carrés, tu fais... c'est beaucoup quand même.
Avec ascenseur, sans ascenseur ?
Non, sixième sans ascenseur, t'es fou.
Et les toilettes sur le balier ?
Non, pas exagéré. Mais tu te dis, mais qui peut louer ça ? C'est dur, c'est très très dur. Donc je pense que là, c'est...
Est-ce que quand tu refais des décos, on te demande de faire de la déco qui peut isoler un peu ?
Bah oui, mais le problème de la déco qui isole, c'est... Si par exemple, tu mets du placo avec de l'isolant derrière, dans une passoire énergétique, imaginons, déjà tu perds de l'espace, hein, parce que l'isolant plus le placo, on est parti pour perdre 20 cm. C'est beaucoup. Et puis c'est un petit pansement sur une grosse coupure. C'est-à-dire que oui, ça va isoler un petit peu, mais enfin, très rapidement, c'est quand tu mets de la peinture sans sous-couche, quoi. Au bout d'un moment, ça s'écaille à nouveau. Là, c'est pareil. Non, il y a vraiment... C'est un puits sans fond, là, l'immobilier. Si vraiment il fallait refaire tous les immeubles, les maisons, qui sont des passoires énergétiques...
Est-ce que le gouvernement... Est-ce que tu suis un petit peu ce que fait le gouvernement pour... Les primo-accédants, les rénovations de passoires énergétiques, les normes pour l'écologie, les normes pour le chauffage, les normes pour l'électricité.
Je suis déjà le gouvernement sur le recul en matière d'écologie. Mais bon, on a des touillettes en carton. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? La dernière fois, je sors je sors les poubelles de recyclage, tu sais, de carton, de papier. Et je parle avec le mec et il me dit vous savez qu'on ne sait plus où les foutre, hein. Il n'y a plus de place. Hein. Donc on fout tout pareil. Hein. Ah d'accord, c'est super de trier alors. Non, mais tu te dis qu'en matière d'écologie, on est tellement loin. On s'est fait encore taper sur la gueule par tout le monde. On ne va pas assez loin. On sait tous que c'est la merde, là, le réchauffement climatique, etc. Alors avant, quand on disait ça, on passait pour un complotiste ou un fou. Donc maintenant, on y est, là, ça y est. Mais il y a des gens qui continuent à dire « Oh, ça va, mais non, Trump le premier, qui te dit « Mais non !» Tu te dis bah, « Si, les gars, on est mal. On est mal, on mange trop de viande, on fait trop d'élevage, on fait trop de... » Puis alors, et les méga-bassines, et les autoroutes gigantesques avec... Et tu te dis, mais ça va s'arrêter où?
Qu'est-ce qui te met la rage le plus en ce moment? Mis à part ce qu'on a abordé.
De voir que des gens comme les soulèvements de la Terre sont traités comme des terroristes, alors qu'ils essayent de sauver ce qu'il y a à sauver. Moi, ça me fend le cœur. Je trouve qu'on ne fait absolument rien. En vrai, on ne fait rien pour l'écologie. Alors, on se donne bonne conscience. Hein. Il y a moins de plastique, moins d'emballage. Moi, je vois encore dans les supermarchés des fruits emballés dans du plastique. Hein. Bon, ça, c'est encore bon. Mais quand je vois les gens qui sont à Sainte-Soline et qui se battent pour pas qu'il y ait des méga-bassines et que les gens disent « Mais n'importe quoi, bande de terroristes !» Bah non, parce que les méga-bassines, c'est pas la solution, parce que ça veut dire que tous les gens qui ont plus d'oseille vont avoir le contrôle de l'eau. L'eau, c'est la prochaine guerre. Il y a des gens qui n'auront pas d'eau et des gens qui en auront trop et des gens qui diront « Ah, c'est mon eau !» Il faut payer. Donc tu te dis, arrêtez de traiter les gens qui essaient de sauver la nature et de nous réveiller de terroristes. C'est pas ça le terrorisme. Terroristes, c'est les fils de vomi du Hamas. Ça, c'est des terroristes. Mais les mecs qui sont sur la 69, sur les arbres et à Sainte-Soline, c'est pas des terroristes. Non, c'est des écologistes, des vrais, des purs, des durs, qui essayent de dire, oh les gars, on déconne, il faut aider la planète, là. Donc...
Quel regard tu portes? Alors, ceux qui se planquent dans les arbres, c'est des warriors.
Ah, pour moi, c'est des warriors. Oui, ça, je te confirme.
Qu'est-ce que tu penses des gens qui balancent des jus de soupe sur les peintures ou qui déchirent les peintures?
Ça, je trouve ça nul. Alors, franchement, pour moi, ça n'a aucun intérêt.
Pourquoi?
Oui, alors, on va faire un buzz en disant, tout le monde va en parler, ils ont jeté de la peinture. Alors, généralement...
De la soupe.
La soupe, ça s'efface, etc. Bon, ok. C'est même pas le fait de jeter de la soupe. Mais ah, pourquoi faire? C'est pas ça. Monte dans les arbres avec les gens de la 69. Je trouve qu'il y a un vrai combat. Après, oui, si ça peut faire parler de l'écologie. Mais ça n'en fait pas parler en bien. Tout le monde dit que c'est stupide. Et les œuvres d'art, elles n'ont rien fait. Enfin, tu vois, pour moi, ça n'a aucun intérêt. À ce moment-là, va jeter de la soupe sur...
Attention, pas d'incitation à la soupe.
Non, mais sur... je sais pas, moi... des tracteurs qui vont creuser des gros trous pour faire des grosses méga-bassines. Mais je veux dire, non, jeter de la soupe et de la peinture sur des œuvres d'art...
Qu'est-ce que tu penses des gens qui font des grèves de la faim pour des causes?
Ah, moi, j'admire les gens qui sont capables, comme les warriors qui montent dans les arbres, qui sont suspendus, qui prennent des lacrymos, qui prennent de tout, qui font la grève de la faim. Moi, j'admire ces gens qui ont vraiment des combats. Moi, souvent, on me dit « t'ouvres ta gueule », etc. Bah déjà, à mon petit niveau, j'essaie d'ouvrir un petit peu ma gueule. Mais moi, je ne pourrais pas monter en haut d'un arbre à me prendre des fumigènes. Moi, j'admire ces gens.
Des lacrymos.
Oui, des lacrymos, tout ce que tu veux. Bref, je trouve que ces gens sont exceptionnels et formidables. Je trouve qu'il faut vraiment tellement de conviction, tellement de courage pour aller jusqu'au bout de ton truc. Alors là, moi, j'ai dit bravo les gars. Je pense que notre planète va vraiment très mal et qu'on est de plus en plus... à essayer de dire il faut manger moins de viande, mais t'as l'impression dès que tu dis ça que t'empêches les gens de vivre. Mais on vous a pas dit d'arrêter complètement, on vous a dit de ne serait-ce que ralentir un petit peu, de consommer différemment, de consommer local, d'essayer de manger autrement, de manger mieux. Alors par exemple, moi j'ai un fils qui fait et une fille qui font beaucoup de Too Good To Go. Tu connais cette application? C'est extraordinaire. T'as une appli et t'as tous les commerçants. Je trouve ça exceptionnel. T'as tous les commerçants qui, au lieu de jeter, parce que c'est plus bon, parce que c'est périmé, parce que la date est passée, parce que la tomate, elle a une gueule un peu comme ça, les foutent sur l'appli, tu payes un prix dérisoire et t'as un gros panier avec plein de trucs à manger. Ce genre d'initiative, je trouve ça génial. Voilà. Je trouve qu'on va pas assez loin en écologie. Et dès que tu dis qu'il faut manger moins de viande, tu sais, tu prends des entrecôtes, on te met des tweets avec des barbecues géants. Et là, hein, alors? Je sais plus quoi dire, moi, les gars. pensez à vos enfants, à vos petits-enfants, continuez à manger des grosses entrecôtes, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Moi, à un moment donné, t'essayes de... Chacun met sa petite pierre, tu sais, c'est un colibri. C'est le travail du colibri.
Je voudrais que tu me parles de ta perception de la gestion de la crise Covid.
Oh, mon Dieu, la crise Covid, ce confinement. Moi, ça m'a pas... j'ai appris à faire des trucs, hein. En cuisine, j'étais avec mes gosses et tout, c'était super. J'ai passé un bon confinement.
Vous aussi.
La gestion de la crise... Bah, là aussi, il y a eu un vocabulaire qui était trop. Nous sommes en guerre. Non, on n'est pas en guerre. Moi, j'aurais aimé plus de sincérité. Les gars, c'est la merde. On ne sait pas du tout ce que c'est.
Comment tu fais pour gérer la panique ?
Ah bah, c'est très compliqué. Les gens, moi, je me rappelle, les gens avaient très, très peur. Moi, j'étais tellement dans le... Mais qu'est-ce que c'est que ce virus ? Pourquoi ? Moi, je panique pas facilement. Je suis plutôt dans la réflexion, dans... Ok, on va se protéger, c'est normal. On va protéger les autres, c'est normal. Oui, on va. Mais après, d'un seul coup, c'est devenu waouh, ça a été terrible. Et c'est là où on a vu que bah, les soignants, heureusement qu'ils étaient là. On a vu plein de professions qu'on a. Les éboueurs, les infirmières,
les caissières,
les livreurs, tous ces gens. Mais après le Covid, que s'est-il passé ? Est-ce que ces gens ont eu des primes, ont été non.
Certains.
Oui, enfin...
Certaines.
Très petites primes, hein.
Chez Système U, ils ont eu quelques primes, d'après le directeur général.
Peut-être. Je n'ai pas mes entrées chez Système U.
Non, mais eux, on les a reçues ici.
Ah, c'est très bien. Merci, Système U, alors.
Chalcher. Dominique.
Dominique, bravo. De toute façon, là, on est vraiment dans un instant... Et pourtant, j'essaie encore de monter sur scène et de faire rire les gens, mais on est quand même dans un gros bourbier, là. Et je parle pas que de la guerre, je parle aussi de l'écologie, je parle de la bouffe, le travail, les services publics, tout.
Les maladies mentales.
Oh, allez, tout. Mais quand tu vois les... Bah, de toute façon, il y a des services entiers qui ferment dans les hôpitaux. Ils n'ont plus de lits, ils n'ont plus de personnel. Donc forcément, les services qui trinquent en premier, c'est les services, tu sais... Là, ça coûte, tu sais plus. T'as une urgence médicale pour un enfant, c'est... What
hein? Un accouchement.
Accoucher, alors là, bon, bah, c'est
réarmer, tu peux pas accoucher. Ouais.
La santé mentale, c'est pareil. C'est, pendant très longtemps, on a pensé que les camisoles chimiques suffisaient, que, enfin, tu vois, bon. Là, on est vraiment à un point où on se dit, donc, une fois que t'as fait le constat de tout ce qui va mal... que tu as éventuellement quelques petites solutions pour gagner un peu d'argent et faire en sorte que ça continue de vivre bien et que ça ne se met pas en place, à part pleurer, qu'est-ce que tu veux faire ? En vrai. En vrai.
Tu fais une chaîne YouTube ?
Oui, tu fais une chaîne YouTube et puis tu essayes de réveiller les gens. Mais en vrai, nous, on n'a pas les commandes des budgets. Moi, j'aimerais bien que mes impôts aillent au service public en priorité. École, la santé, voilà, les services, ce qui fait de la France un pays exceptionnel.
Et les intérêts de la dette, on en fait quoi ?
Bah, les intérêts de la dette, c'est ce qui va nous plomber la tête, quoi. Mais moi, je chercherais des solutions. Tax the rich.
Tu t'intéresses un peu, on parlerait un peu énergie, tu t'intéresses un peu au pétrole, au gaz, à l'uranium, pas du tout ?
Non, okay. Je sais qu'on est dans la merde parce que l'électricité, on la vend, puis on la rachète, donc ça nous fout dans la merde, quel que soit le... Bref.
Est-ce que tu veux me parler encore du Covid ?
Ouais, le Covid, moi, c'est...
Ou sinon, on change de sujet.
Oh,
C'est interview récréation pour nous.
Pour moi, le Covid, ça a été une telle merde... pour les pauvres gens qui étaient à l'hôpital, les soignants, mais l'enfer pour eux, qui n'avaient ni gants, ni masques, avec quand même, on a eu quand même
Sibeth
Ndiaye qui nous a dit, et Olivier
Véran,
j'ai failli dire Verlan, qui disait que ça ne servait à rien. On a eu tout et son contraire.
Le mec est quand même tout bip, c'est extraordinaire.
Tu te dis, bon, alors tu savais plus à la fin. Il y avait des nouvelles lois, des autorisations à sortir tout seul, des trucs auto-signés. Enfin, c'était n'importe quoi.
Le nudge.
Tout était... J'ai pas compris. Donc moi, ceux qui me faisaient le plus...
Pourquoi t'as pas compris?
J'ai pas compris les ordres et les contre-ordres.
Ah bah c'était très simple.
Oh.
Mais c'était très simple à comprendre. Ah bah, Il se retrouve face à un virus qui débarque de Chine, d'une ville où on a aidé à faire un laboratoire
bah,
P4.
Oui, bien sûr, mais bon.
Attends, c'est pas fini. Il se retrouve. On a des masques, on a des antiviraux, alors on n'a plus rien.
Donc ah bah non, on n'en a plus.
Il panique.
Bah oui, bah ils disent que ça sert à rien.
Il se retrouve avec un truc aéroporté, manuporté, avec un taux de rémanence sur les surfaces relativement important. Il voit les Chinois désinfecter les rues à coups de canon à neige. Et il y a Macron, Olivier Véran, et comment s'appelait notre ministre de l'époque, Agnès
Buzyn.
Buzyn. Qui essayait d'appeler tous les jours notre leader. Ils ont paniqué.
J'entends, mais ceux qui ont morflé, c'est les soignants, et qui étaient sans matériel, qui avaient quand même, je me rappelle de ces images de gens, d'infirmières qui mettaient des sacs poubelles, qui essayaient de se fabriquer des masques avec du tissu, qui n'avaient rien. Et là, tu fais, ah ouais, fonctionne bien les services publics, ils sont bien achalandés.
T'as pas vu les infectiologues avec une série de bagouses comme Mr. T, extraordinaire, et les ongles longs, bien entendu.
Bague.
Ouais, bagouze, infectiologue, en pleine épidémie, c'est magnifique.
Non, mais tout, si tu veux, tout était tellement... c'est là où tu te dis qu'un petit grain de sable, un virus, c'est... D'un seul coup, tu vois que... Ah, on n'est pas très à la hauteur, en fait. Hein, et ceux qui trinquent, ils trinquent bien cher. Bien cher. Je trouve ça terrible. Comme... Et puis, les familles qui ne pouvaient pas aller voir leur famille en EHPAD... Oh, moi, j'ai quand même un ami... qui a perdu son père et qui a dû récupérer son père sur le parking, dans le cercueil fermé, qui n'a pas revu son père. Enfin, je sais que c'est terrible, hein, y a pas que, j'en connais plein à qui c'est arrivé. Vous pouvez pas aller voir les familles, les vieux qui étaient dans leurs EHPAD, mais moi, je me suis dit, mais heureusement, mon père est mort 5 mois avant cette histoire. Je me suis dit, mais oh, sinon, ça aurait été terrible, ça aurait été horrible, je serais devenue dingue.
Perception des gilets jaunes.
Bah c'est un soulèvement populaire, mais ils n'avaient pas de leader et il n'y avait pas d'unité. Donc c'était génial. Ça, d'un seul coup, il y a eu une émulation de plein de gens, etc. Mais ça a été tellement récupéré de par la droite, de par le machin. Ils n'avaient pas d'unité. Il n'y avait pas un vrai leader avec un vrai plan, quoi.
Les agriculteurs qui manifestent.
Bah si c'est pas la FNSEA et si c'est les vrais agriculteurs et pas le patron de Lactalis, moi je suis toujours du côté des gens qui souffrent. Hein, donc moi je pense que les agriculteurs n'ont pas été entendus. C'est pas les accords de Monsieur Lactalis qui vont soulager les petits agriculteurs. Donc c'est terrible et c'est eux aussi, c'est les premiers à morfler dans tous ces problèmes. Et puis surtout, on leur interdit de faire des choses et de cultiver des choses. Et par contre, on n'interdit pas les choses dans les autres pays. Donc ils voient des trucs à eux qui sont interdits. Et puis les autres... C'est tellement n'importe quoi. Tu te dis, quand t'es agriculteur aujourd'hui, c'est pareil que les mecs dans les arbres. Hein. Il faut la foi, il faut de la conviction et il faut de la force. Moi, je suis en admiration devant des gens qui continuent de se battre pour garder leur exploitation agricole. Pour
leur
essayer...
dignité.
Ouais, leur dignité. Et surtout pour se dire, OK, mes parents, mes grands-parents ont construit ça. Et je vais le garder. Et je vais garder mon exploitation. Et je vais me lever le matin. Et
je vais la transmettre.
Et je vais la transmettre. Et oh, respect total. Respect total. Et c'est... Je pense qu'ils n'ont pas été entendus. Et je pense qu'il ne va pas se passer grand-chose, là. Mais bon.
Tu m'autorises à te poser une question Internet ?
Bah oui, vas-y.
En tant qu'ancienne... Alors, une question Internet de Arteus. En tant qu'ancienne animatrice télé, a-t-elle un avis sur l'évolution des émissions de télé de divertissement comme TPMP d'Hanouna ?
On me demande souvent mon avis sur TPMP et Hanouna. Moi, je pense que la télé, c'est un vecteur. Et puis, tout le monde va chercher ce qu'il a envie de voir. Moi, par exemple, qui regarde très peu la télé, qui suis une énorme consommatrice de séries, de plateformes, bah là, je viens de voir The Gentleman, de Guy Ritchie. Je vous encourage à le voir, c'est magnifique.
Je te conseille The Undeclared War.
Bah écoute, j'irai de ce pas.
Fondation aussi.
La télé, moi, tu sais, je suis trop vieille pour la télé.
Quel âge tu as déjà ?
59 ans. C'est fini. Moi, la télé...
Pourquoi tu travailles plus à la télé, d'ailleurs ?
Je fais une émission
par
an.
Un énorme public.
Mais oui, je sais, mais on me donne rien à la télé.
Pourquoi ?
J'ai pas de contrat de chaîne. Je suis free as a bird depuis des années. Hein. Je n'ai pas de contrat d'exclusivité ou de machin. Je suis...
Donc, t'as pas une marque de bricolage qui est venue t'appeler en te disant vas-y on te paye ta chaîne YouTube?
Ah au début si, j'ai eu un super partenaire et j'ai, c'est grâce à eux que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, c'était Black & Decker. Mais après les gars ils ont été aussi pareil que tout le monde, ça a été dur etc. Et puis voilà, mais si j'ai eu un partenaire au début. J'ai fait des partenariats quand même un peu sympas. Mais...
La télé t'aimes pas parce que t'es trop grande gueule?
Je pense que la télé, je suis trop vieille.
Pourquoi t'es trop vieille ?
Bah parce que je pense qu'on aime bien les... Est-ce que tu connais beaucoup de femmes de 60 balais ? Je te parle pas d'Élise Lucet qui fait de l'enquête, de l'investigation.
De toute façon, Élise Lucet n'a pas 60 balais.
Voilà.
Elle a 32 ans.
D'accord.
Elle aura toujours 32 ans.
Très bien. Bon, bah, moi j'ai 30...
34.
33. Mais c'est très peu les femmes déjà en télé. Faut qu'elles soient plus jeunes.
Conneries.
C'est la vérité. En vrai... je pense que je dois aussi les faire chier.
Edwige Chevrillon, c'est une pointe de diamant.
Oui, bien sûr. Mais non, je pense que oui, peut-être que je suis trop grande gueule, peut-être que je dis trop ce que je pense, peut-être que... mais c'est pas pour autant, tu vois, donc c'est vrai que ça fait un long moment que j'ai une émission par an. Hein. C'est tout.
Et combien tu prends pour une émission par an ?
Je suis payée... Attends que je te dise pas de conneries, ça me fait... 550 euros l'émission. Donc j'en fais... Bon, ça va me faire... 10 000 balles.
Brut ?
Brut. Presque.
Tu trouves qu'on paye trop de charges en France ?
Bah, je pense que pour les gens qui ont envie de faire des sociétés et monter leur boîte, on essaye de faire des exonérations au début, mais je pense que ça serait bien. Moi, par exemple, quand je fais des tutos YouTube et que j'embauche des gens pour m'aider, je préférerais leur donner plus... Et payer moins de charges. Quand tu vois que tu payes deux fois ce que tu donnes en charges, c'est compliqué pour les gens qui travaillent. Je trouve que les charges devraient être complètement différentes. Ça devrait être autre chose. Ou alors, tu devrais choisir où tu mets tes charges. Par exemple, moi, si on me disait tu vas payer 1000 francs, 1000 francs la fille, 100 ans.
T'habites en Suisse, toi.
Ouais, j'habite en Suisse, putain, j'aimerais bien. Si on me disait tu payes 1000 euros de charges, je dirais, ah bah c'est super, je donne ces 1000 euros à l'hôpital. J'aimerais bien qu'on puisse, nous, avoir accès à la Cour des comptes, tu sais, qu'on puisse dire...
accès.
Bah oui, mais enfin, voter, je te dis, c'est pas nous qui votons les budgets. Hein.
Tu peux lire les rapports de la Cour des comptes.
Je peux. Enfin,
je te conseille ceux de Philippe Seguin, ils sont extraordinaires.
Ouais, je vais les lire, puis je vais faire... non, mais j'aimerais bien qu'on puisse choisir où va tout cet argent. J'aimerais bien. Mais je pense qu'on n'aide pas beaucoup les jeunes à démarrer dans des trucs. C'est sûr. Et du coup, après, les patrons vont te dire « on peut pas augmenter parce que les charges ». C'est pas faux. Parce que, effectivement, si tu augmentes quelqu'un de 1000 euros ou de 600 euros, ça te coûte trois fois ça. Donc j'entends que ça peut... Il n'y a pas que des énormes patrons. Tout le monde n'est pas Bernard Arnault. Hein. Il y a aussi des petits patrons qui ont trois employés et qui essayent de faire marcher leur boîte. Tu vois, le patronat, c'est pas que des mecs du CAC 40. Hein.
Est-ce que tu penses que les TPE, les PME et les petits patrons, les patrons, peuvent faire changer notre pays ? Est-ce que le changement viendra du milieu de l'entreprise ?
Bah, moi, toutes les révolutions... C'est un fait, si tu regardes l'histoire, ont été faites par la bourgeoisie. Donc, la bourgeoisie, ça peut être le patronat, ça peut être l'entrepreneuriat. En tout cas, moi, j'aimerais que la révolution, le changement se fasse par la jeunesse. Merde ! Historiquement, c'est plutôt les bourgeois qui ont fait les révolutions. Mais la petite bourgeoisie, je sais pas. Peut-être que...
Tu te rappelles de la commune, ça s'est mal terminé. Hein.
Oui, ça s'est mal terminé. C'est terminé dans le sang.
T'as envie de parler de quelque chose en particulier tout de suite ou je peux enchaîner des petites questions ?
Oh, tu peux enchaîner, je t'en prie. Quelle heure est-il ?
Alors,
oui, tout de même.
Quoi qu'il y a tout de même.
Ah oh, bah dis donc, il est tard.
Non, mais tu déconnes ou quoi ? T'es encore parti pour 3 heures.
Non.
Et je t'avais dit de ne pas garder ton téléphone.
Et ah merde, ah oui, pardon.
Il n'y a que Laurent Alexandre qui me fait ça et ça me fâche beaucoup.
Oh pardon, excusez-moi, je suis désolée.
T'as envie que je me fâche ? Attention.
C'est parce que j'ai un rendez-vous après. Et que,
mais
donc,
t'as
voilà,
un rendez-vous
bref.
Après, tu commences ça ?
Ben oui, j'ai des choses à faire. Hein, donc,
mais à quelle heure ?
Bah, j'ai dit dans 20 minutes que c'était fini.
Ouais, ben tu peux lui dire dans une heure.
Ah non.
Ah comment ça, non ?
Non, 30 minutes maximum.
Allez, bon.
Je vous aime tous, mais 30 minutes
d'accord.
Maximum.
D'accord. Alors, je vais te lire un commentaire et tu vas répondre
dis-moi.
À ce commentaire-là. Elle a une vision catastrophique de petite bourgeoise sous-informée. Pourquoi avoir invité quelqu'un d'aussi creux ?
D'aussi quoi?
Creux.
Creux? Bah, mon chat, je sais pas. C'est la première fois qu'on me dit que je suis creux. Normalement, on me dit que je suis rond.
Vas-y, tu peux claquer la porte, y a pas de problème.
Petite bourgeoise. Putain, j'aimerais bien être une petite bourgeoise. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Tu l'emmerdes.
J'ai une vision catastrophique. Bah, j'essaie. Je pense que je suis pas sous-informée. Maintenant, tu sais, chacun un peu.
Tu passes combien de temps à t'informer par jour?
Ah, je peux passer une bonne heure et demie, quoi. Le matin, je me lève tôt et je passe une heure et demie à regarder les articles, à lire.
C'est une gym où tu te laisses porter?
Non, c'est une gym. C'est une gym. C'est une vraie gym. Je vais chercher, je lis, je regarde.
Et quand tu prends une information qui te met un uppercut au foie, un crochet au foie, tu la digères tout de suite, tu la digères en dormant, tu fais une insomnie, comment tu gères
ça? Je mets du mal à la digérer, j'ai du mal, j'ai beaucoup de mal. Mais bon, j'en parle. Avec mon mec, avec mes potes, on discute. On essaye de...
Combien ça coûte au mètre carré une rénovation d'un appartement?
Bah, ça dépend de ce que tu fais, mais...
Genre propre?
Ah, propre, bien. Ça, moi, je dirais entre 800 et 1200 euros le mètre carré.
Ah oui. Mais tu refais genre...
Ah bah, la plomberie, l'électricité, la peinture...
L'isolation?
Bah, si tu peux, parce que c'est mieux.
Tu suis les cours de l'aluminium, tu suis les cours du placoplâtre?
Non. Mais par contre, je sais qu'en ce moment, c'est la merde. Matières premières...
Parce que je discutais avec les gens de ta partie, ils me disaient, voilà, on fait des devis, les devis sont de plus en plus courts, la date de validité du devis est de plus en plus courte, parce qu'on s'engage sur des chantiers, puis après, nous, on doit subir l'inflation.
Bah, bien sûr. Mais toutes les matières premières, que ce soit le placo, le bois, les IPN, le fer, bah, tout a grimpé en flèche. Il y a le bois, ne serait-ce que le bois. Le bois pour construire, mais le bois pour se chauffer aussi. C'est très très cher. Donc c'est malheureusement, l'inflation, elle est partout. Elle est sur tout, la nourriture, les fringues, les matières premières pour redécorer, peindre, c'est bien sûr. Je ne suis pas les cours de l'aluminium et du charbon, mais par contre, je sais que les matières premières, c'est compliqué là.
Ça, je te le fais pas dire, puis c'est pas prêt de s'arrêter. Hein.
Non.
Est-ce que tu as... Ouh là là, attention, une question technique. Est-ce que tu as un avis sur l'interdiction progressive de la construction individuelle dès la RT 2030? Pas d'avis?
Non, j'ai pas d'avis, parce que je pense que ça va être mis en place, et peut-être même pas mis en place. Peut-être que c'est juste discuté. C'est des solutions qu'on lance comme ça. Tu sais, à un moment donné, on a discuté du fait qu'on allait prendre les crédits, les épargnes, les... Ils lancent des trucs comme ça, des fois, pour voir les réactions des gens, mais...
La fin de vie.
La fin de vie.
C'est plutôt sympa qu'ils s'intéressent à un sujet compliqué comme ça.
C'est compliqué, la fin de vie, hein.
Ah ouais,
les soins palliatifs. Mais par contre...
Toi, pour la fin de vie, tu veux quoi?
Moi, j'espère...
Je te jette de la falaise...
Moi, ouais, écoute, je pense que j'espère partir en dormant. Je veux pas être malade. Tu sais, j'ai eu une mère malade qui a eu un cancer, j'ai eu un père malade qui a eu un cancer, je les ai suivis jusqu'au bout, mon père a habité chez moi jusqu'au bout. Je sais ce que c'est la maladie, vieillir, glisser, etc. C'est terrible. Moi, je veux pas ça. C'est impossible.
Question Internet. Valérie dit pas mal de gros mots. Est-ce que ça lui a posé des problèmes? Attends, non. Est-ce que cela lui a posé des problèmes ou lui pose des problèmes dans ses émissions?
Dans les émissions, j'essaye de pas dire trop de gros mots quand même. Je parle verlan parce que c'est une intique de
boomer.
De boomer, d'adolescent de merde des années 80.
T'as grandi où?
À Argenteuil. Non, je dis des gros mots. Non, je pense que ça m'a pas posé de... Après, souvent, les gens, ils disent que je suis... Tu vois, comme tout à l'heure, je suis ou une poissonnière ou creuse. Tu sais, des fois, je suis une poissonnière, des fois, je suis une petite bourgeoise, des fois, je suis creuse. J'aime bien les gens qui ont des avis alors qu'ils me connaissent pas, c'est super.
C'est beaucoup comme ça.
On
t'invente des vies sur Internet ou pas?
Ah ouais, bien sûr.
C'est quoi le truc le plus dingue qu'on t'ait inventé?
Que je suis milliardaire, tu vois, que je gagne énormément d'argent. Ah non, pas du tout, les gars. Après, comme je suis pas la fille qui cache le plus sa vie, je suis extrêmement sur les réseaux, j'en vois bien que je suis quand même... Tout va bien, quoi. Ça va, c'est tranquille.
T'aurais envie qu'on fasse quel type d'interview et avec qui?
Toi?
Bah, ici.
Bah, le président, tiens, cette bonne blague. J'aimerais bien voir face à toi ce qu'il pourrait dire. Tu vois, le président ou même Attal.
Avec c'est des... journée, c'est journée. Ah, le cornu.
Non, mais Macron, ça serait intéressant. Tu vois, je trouve que j'aimerais qu'il ait des vraies questions, parce que souvent, quand il est interviewé, on lui donne les questions avant, ou c'est lui qui les donne, et puis on le contredit pas trop, on n'essaye pas trop de... Tu vois
Toi, tu me verrais bien lui mettre une grosse patate en
non,
direct.
Non, mais lui ça. Poser des vraies questions, en tout cas. Lui mettre...
Tu voudrais que je le fasse comment? Façon anaconda, c'est-à-dire que je le mets un peu en confiance, je mets mes anneaux autour du siège, je serre d'un coup progressivement, ou je le laisse s'enterrer tout seul?
Moi, je suis pour l'enterrage avec sortage de rame. Je trouve que c'est plus malaisant, et donc ça peut être intéressant.
Et tu souhaiterais que je prenne mon temps?
Oui.
Que ça dure?
Bah, qu'en tout cas, tout soit... Tous les domaines et toutes les questions que personne ne lui pose jamais, ou en tout cas ne va jamais jusqu'au bout, que tout soit vraiment mis au bout.
Tu trouves que les journalistes sont vraiment... ils passent de la brillantine à chaque fois?
Bah, je pense qu'ils ont, ils vont pas jusqu'au bout des questions. Je pense qu'ils ont...
Quoi, à ton avis? Ils ont peur, ils connaissent pas, ils ont pas le background, on leur a demandé pas faire...
Je sais pas si on leur a demandé de pas faire.
Ils peuvent déclencher des guerres.
Je pense qu'ils n'ont pas envie d'aller trop loin. C'est le président de la République. Je pense qu'il faudrait que ce soit des gens qui posent des questions. Une assemblée de gens, et pas forcément sélectionnés. Des gens qui ont envie de poser des questions et qu'on leur pose des questions. Je pense que c'est... Après, c'est le président de la République. Donc, je pense que tout le monde y va tranquille, tu vois, parce qu'on ne sait pas trop...
Tu verrais qui d'autre, sinon, à ta place?
À part Macron ou Attal, écoute...
Je te donne des idées.
Gérard Depardieu, tiens.
Gérard Depardieu ou Vincent Bolloré?
Alors, Vincent Bolloré, j'ai vu quelques extraits de...
Bernard Arnault
de... Bernard Arnault, peut-être. En tout cas, qu'ils expliquent des choses. Des gens qui ont des trucs à dire et à qui on ne demande jamais les bonnes choses, quoi. Tu vois?
C'est quoi le plus dur dans la rénovation? C'est l'électricité, c'est les structurels, c'est quand tu découvres des rats derrière.
La plomberie, je crois. Parce qu'il faut tout refaire.
Et tu penses que... Qu'est-ce qu'il y a de plus dur dans notre France à rénover?
La plomberie. C'est-à-dire la base. C'est-à-dire tous les tuyaux qui alimentent tous les services publics. La plomberie. C'est-à-dire, je pense que à un moment donné, on avait dans la campagne de Macron, il disait la transparence, machin, les yeux dans les yeux, le truc. Je pense que on n'est pas assez... On rénove pas les endroits qu'il faudrait rénover. Voilà. C'est... Moi, je pense qu'il faudrait mettre à plat, il faudrait faire des référendums sur l'éducation, l'école, l'hôpital, la santé, et qu'on mette une bonne fois pour toutes sur la table le fait que plus de médecins, les déserts médicaux, la souffrance des gens, voilà, les vrais trucs, quoi. Les profs, c'est l'éducation, je lisais encore Gabriel Attal, je l'entendais dire, l'école, c'est notre arme. Et oui, bah alors arrête d'enlever des postes, alors. L'éducation, c'est l'éducation qui peut sauver les gens. L'éducation sauvera le monde.
Question Internet. Que penses-tu des nouvelles réformes énergétiques?
Quelles sont...
DPE, etc.
Bah, que je pense que c'est très compliqué à réaliser en vrai, que ça coûtera très cher, que ça sera très long, et que maintenant, ce n'est pas une raison pour baisser les bras. Il faut quand même essayer de trouver des solutions qui coûtent moins cher. Et je ne parle pas que de poêle à granules et de pompe à chaleur. Je parle aussi d'isolation. Maintenant, toutes les vraies solutions, à un moment donné ou à un autre, elles coûtent de l'argent. Et le gouvernement ne peut pas payer tout. Donc malheureusement, la révolution énergétique, ça fait des années qu'on en parle et des années qu'on continue à construire des trucs sur le fil.
Question Internet. Bonsoir, Madame Dabido.
Bonsoir.
Question de AMX. Que pensez-vous de l'intelligence artificielle? Seriez-vous favorable à ce qu'une IA anime les prochaines COP?
Bah, moi, j'ai un vrai truc de boomer sur l'intelligence artificielle. Pour moi, tu sais, c'est Terminator, quoi.
Tu utilises un truc sur ton téléphone d'intelligence artificielle ou pas du tout?
Ah, pas du tout. J'ai même coupé Siri, hein, donc, pour te dire. Non, pas du tout. Moi, j'ai un vrai souci avec l'intelligence artificielle quand elle peut prendre la place de quelqu'un d'autre. Tu vois, on a beaucoup parlé de l'intelligence artificielle qui prenait la place des doubleurs, qui faisaient des voix, des illustrateurs, des comédiens, des gens. Moi, à partir du moment où ça n'aide pas l'être humain et que ça prend la place de l'être humain, j'ai un petit problème de... Ça me dérange.
Et est-ce qu'une intelligence artificielle pour gérer nos politiques ou pour aider nos politiques, non.
Bah, écoute, quand tu vois la qualité des textes sur ChatGPT, tu te dis, je suis pas sûre. La science-fiction, le cinéma, la littérature nous ont prouvé que l'intelligence artificielle, en règle générale, c'est pas le truc qui fait le plus de bien à l'homme. Hein. Non, vraiment, Skynet, moi je suis très 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 Terminator. L'intelligence artificielle, elle doit servir l'homme et pas le remplacer. Moi, j'ai pas envie que ce soit des gens qui prennent déjà que c'est dur de trouver un boulot. Si en plus l'intelligence artificielle vient prendre le boulot des êtres humains, c'est pas possible.
Qu'est-ce que tu lis comme livre en ce moment ?
En ce moment ? Je ne lis pas en ce moment. J'écris un livre en ce moment. Donc je suis concentrée, qui s'appelle Vieille au pluriel. C'est un roman graphique que j'ai créé avec ma fille. Donc je suis concentrée sur ce que je raconte sur les vieilles.
Quand est-ce qu'on peut te voir en spectacle ?
Là, fin mai, je suis à Gagny. Faut que je programme des dates.
Bon. Est-ce que tu as un conseil pour les jeunes générations ? Quelque chose d'impérissable, une bouteille à la mer qui restera sur les réseaux. Et je te jure, la prochaine fois que tu reviens, si tu me fais le coup de partir au bout d'une heure vingt, ça va barder.
Bah pardon, hein, je suis désolée les gars.
En plus, tu connais le format, tu sais que c'est très...
Moi je pensais que c'était une heure et demie et en fait...
Ouais, et que c'était en noir et blanc aussi, non ?
Oui, je pensais que c'était en noir et blanc, tu vois. Non mais n'importe quoi, quand j'ai... Bref.
Conseil pour les jeunes générations.
Moi je dis aux jeunes générations, votez, inscrivez-vous sur les listes électorales, votez, prenez votre destin en main. Il n'y a que comme ça que vous serez entendu. En tout cas, je crois beaucoup dans la jeune génération. Moi, j'adore les jeunes. J'adore les ados. Ça me fascine. Je crois beaucoup dans la prise de conscience des jeunes sur l'écologie. Je trouve qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus à la pointe que nous, on a pu être. En tout cas, ma génération à moi. Moi, c'est ma fille qui m'a fait arrêter la viande. C'est mon fils qui me fait... qui m'a fait changer ma façon de consommer, etc. Donc je crois beaucoup dans les jeunes. Et pour moi, l'arme suprême de la jeunesse, c'est le vote, pour qu'on les entende, pour qu'on les écoute. Et surtout, la solidarité. Voilà, je pense qu'à tout seul, on ne va pas très loin. Ensemble, on ne va peut-être pas très loin, mais on y va ensemble. Donc voilà.
Valérie Damidot, merci.
Merci, 5 heures view. Et bonne soirée.